Richard Ross, vous êtes l'économe diocésain depuis bientôt un an.
Un peu plus d'un an, je suis arrivé en août 2024.
Un an et demi maintenant que vous êtes en poste.
Que je suis à mon poste d'économe.
Vous n'avez pas perdu trop
diocèse.
De cheveux là, ça va encore?
Non, j'en avais déjà
pas beaucoup.
Donc c'était déjà fait.
C'est pas rien de prendre un poste comme ça, ça fait déjà plus d'un an que vous êtes en poste, vous avez pu mettre des choses en place, vous avez une super équipe et avec vous, il y a entre autres Hélène Oiseau. Bonjour.
Bonjour, donc moi je suis au diocèse depuis 13 ans.
D'accord. Vous êtes la secrétaire de l'économe. Hein,
oui, je suis l'assistante de l'économe depuis 2020, donc j'ai travaillé aussi avec les économes précédents.
Et chargée des ressources.
Oui, voilà, maintenant c'est même
la partie
un peu
la
ma
plus
nouvelle
importante.
Mission, chargée des ressources.
Des ressources financières, des ressources budgétaires.
D'accord, s'il y a une chose, c'est de financer où vont les sous, une autre chose est
d'aller les chercher.
D'aller les chercher.
C'est
alors
ça.
Comment ça marche l'économa? Vous êtes combien?
Alors à l'économa, nous sommes 7. 2 personnes à l'immobilier pour la responsabilité du patrimoine, les travaux, les investissements immobiliers, également le schéma directeur, parce qu'il n'y en avait pas dans le diocèse, on est en train de le réaliser, c'est un énorme travail, c'est plus de 700 édifices le diocèse, qui comprennent des édifices cultuels mais également des maisons d'habitation, puisqu'on loge nos prêtres, des presbytères, des salles paroissiales, une grande partie des mètres carrés que nous gérons sont de notre pleine propriété, et puis une grande partie également sur la responsabilité des communes, puisque les églises, la plupart des églises sont communales, à part la cathédrale qui est sous propriété de l'État. Toute cette organisation-là demande énormément de travail. Une partie qui concerne les ressources, et donc c'est Hélène qui m'accompagne sur ce sujet-là. On en reparlera tout à l'heure. Donc c'est le denier, mais c'est aussi les questions qui concernent les paroisses, hein, avec les quêtes connectées, les bornes, le casuel.
Ça veut dire quoi, le casuel?
Le casuel, c'est la somme versée lorsqu'une cérémonie a lieu dans une paroisse, donc un baptême, un mariage, les funérailles.
Et ça, le tarif, entre guillemets, c'est fixé par chaque paroisse ou il y a des normes?
Alors, le diocèse a édité des petits livrets dans lesquels il y a un montant conseillé, mais chaque paroisse s'adapte un petit peu à la population.
Oui. Donc ça, c'est une partie importante aussi.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on travaille également sur les ressources des paroisses. On accompagne les paroisses pour accroître les ressources. Alors, je dis ça parce que dans les grandes catégories, il y a le denier qui revient à l'association diocésaine. J'y reviendrai dans le détail, c'est ce qui nous permet de pouvoir payer les traitements des prêtres et les salaires des laïcs qui travaillent au profit de l'Église. Et puis après, tout le reste, c'est des ressources qui reviennent aux paroisses. On vient de parler du casuel, mais il y en a d'autres. On a également 2 comptables. L'un qui va chapeauter l'ensemble de la comptabilité du diocèse et qui va réaliser ce qu'on appelle la consolidation des comptes, puisque chaque paroisse a une comptabilité propre.
Ça doit être une belle partie de plaisir.
Oui, tout à fait. Oui. Et chaque paroisse est autonome économiquement, et elle a une comptabilité propre. Et on a également un comptable qui s'occupe de toutes ces paroisses-là. Un petit peu moins de 100 comptabilités aujourd'hui. On essaie d'avoir beaucoup d'efforts pour rassembler ces comptabilités, pour les rationaliser. D'abord parce qu'on a moins de bénévoles aujourd'hui qu'avant pour ces questions-là. Et c'est essentiellement des bénévoles qui assurent la comptabilité dans les paroisses. Et puis par ailleurs, on a des objectifs de rationalisation parce que bientôt on va passer à la dématérialisation. On a des outils de plus en plus performants.
Ça marche ?
Alors la dématérialisation en interne, nous, déjà ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un outil de facturation depuis quelques mois, là, qui nous a permis de dématérialiser tout notre système de facturation en interne, et surtout un meilleur contrôle interne comptable, puisque pour valider ces opérations-là, on passe par un circuit de validation, alors, à l'économa, tout le monde y contribue. Ce qui nous permet d'éviter des fois ce qu'on pouvait avoir avant quand tout était fait sous format papier, des doublons de facturation, ce qui nous permet également de pouvoir réaliser un contrôle interne comptable plus précis. Et puis toutes les factures sont dématérialisées, on les a dans l'outil, donc c'est plus facile aussi pour les experts comptables
aussi, hein.
Et le commissaire aux comptes. Ouais. Alors les paroisses ne sont pas encore englobées dans ce système, mais on réfléchit à tous ces éléments-là pour les années à venir. Donc pour ça, on a 2 comptables qui s'occupent également avec moi des aspects gestion de la trésorerie, des aspects budgétaire, hein, puisqu'on travaille sur des budgets. Et aujourd'hui, on travaille même sur des budgets pluriannuels. Donc on va prévoir sur plusieurs années ce que donneront nos recettes et nos dépenses. Et puis on a également une assistante RH, c'est Gladys. Alors d'abord parce qu'elle s'occupe des prêtres dont on assure le traitement, mais pas que. On s'en occupe et on les gère administrativement jusqu'à la fin.
Bien sûr, parce qu'il y a des prêtres qui viennent de pays étrangers.
Ils sont logés,
aussi,
des prêtres qui viennent de pays étrangers, dont on s'occupe également et dont on suit l'évolution des demandes administratives.
Bien sûr.
Notamment des titres de séjour.
On bah s'occupe également
du logement des prêtres âgés. On prend en charge tout un tas de procédures administratives qui relèvent du grand âge, hein, puisque ben, comme
on met en place la téléassistance.
La téléassistance, les dossiers APA, les aides ménagères à domicile.
Mon Dieu, eh oui.
Les infirmières, etc. Donc ça demande beaucoup de travail. Et puis Gladys s'occupe également de nos 21 salariés pour lesquels elle édite des fiches de paye dont elle suit les contrats.
21 salariés. Oui. Autre que les prêtres.
Autre que les prêtres, oui.
Et c'est beau, ça. Donc, c'est une grosse équipe.
Pas tant que ça, en
pas
fait.
Pas tant que ça.
Non, pour un diocèse de cette taille-là, on est plutôt très serré.
Ah oui.
Oui. Il y a eu beaucoup plus de nombre avant. Enfin, Hélène en parlera mieux que moi. Mais...
Oui, il y a quelques années, il y avait beaucoup plus de monde, surtout au niveau de la pastorale. À l'Economa, on a un peu quand même aussi regroupé les services et une personne fait plusieurs tâches.
On espère que l'équipe va s'étoffer dans les années à venir parce qu'on aura trouvé les ressources pour, parce que les besoins sont là.
Et on a aussi un alternant. C'est un jeune qui est dans un parcours d'études et qui, pour valider son diplôme, a choisi de faire une partie de ses études en présentiel à l'école et une partie dans une entreprise.
Et il vient vous aider au service de l'Economa ?
Oui, je suis sa tutrice et on lui confie des missions pour nous soulager et pour que lui puisse apprendre aussi le futur métier pour lequel il étudie.
C'est magnifique, ça vous amène un peu de sang neuf aussi,
oui.
De la jeunesse. Je crois que je l'ai croisé plusieurs fois, très agréable, il répond au téléphone aussi parfois.
Oui, exactement.
On a à cœur vraiment de prendre des stagiaires, de prendre des alternants, prendre des jeunes en fait. Hein. Certains sont plus intégrés que d'autres, ou en tous les cas plus rigoureux, mais au moins ça leur apprend le métier, ils peuvent se permettre aussi de faire des erreurs, puisque l'apprentissage c'est aussi d'apprendre à faire des erreurs. Et donc c'est important pour eux, mais important pour nous aussi, parce que ça nous permet d'avoir des jeunes, ça nous permet aussi de pallier certaines absences parfois.
Donc, une bonne équipe qui risque de s'étoffer ce qu'on souhaite. Vous avez aussi un conseil économique.
Oui, alors la structure de l'association diocésaine...
Oui. Elle existe depuis quand, cette association?
Alors, 1926. Alors, comme la plupart des associations diocésaines, ça a été le fruit d'un long dialogue entre l'État français et le Vatican, puisque depuis la loi de 1901, des dispositifs existaient déjà pour créer des associations.
Ça mais a la règle... 25 ans, mon Dieu.
Ah oui, mais la règle, du point de vue des associations de loi 1901, c'est que le conseil d'administration élit le président de l'association. La particularité pour la nôtre, c'est que c'est le pape qui désigne le président de l'association. Et donc ça a été l'objet d'un grand désaccord entre l'État français et le Vatican. Et il a fallu attendre 1926, un protocole d'accord. La loi 1905 d'abord, et puis ensuite... 1926, c'est un protocole, un accord du Conseil d'État qui a permis de créer les associations diocésaines, qui sont des associations à caractère particulier. Donc on a le président de l'association qui est l'évêque, un conseil d'administration comme n'importe quelle association. Et après, pour ce qui nous occupe, pour nos affaires économiques et administratives, on a un conseil diocésain aux affaires économiques, qui est un conseil qui relève du droit canon, qui est distinct du conseil d'administration, mais qui est la représentation canonique des affaires économiques au plan du diocèse. C'est un peu le pendant pour une paroisse du conseil paroissial aux affaires économiques. Vous avez la même structure en paroisse. Le curé, qui est administrateur des biens et responsable de la comptabilité de la paroisse, et puis le conseil paroissial aux affaires économiques, on a la même chose avec l'évêque et le CDAE. Tous des bénévoles. Et ce conseil diocésain, on doit lui rendre compte de notre gestion, sur tous les aspects, hein, ressources, les dépenses, et en particulier dépenses immobilières. Et donc, il émet un avis qui est obligatoire.
Il se réunit combien de fois dans
une année ? 6 à 8 semaines. En fait, l'Église, c'est vraiment une structure qui est très collégiale, hein, beaucoup de conseils s'expriment. Et donc, avant d'arriver à étudier un gros investissement immobilier ou des gros travaux, il y a toute une phase d'études au sein de l'Economa. Hélène y a participé pendant des années parce que tu t'occupais également
de l'immobilier. Oui, par le passé.
On a même des sous-commissions du CDAE, hein, des commissions immobilières, où on fait intervenir toujours des bénévoles, en général, pour la plupart des cas, des gens proches de l'Église, mais qui sont des professionnels de ces fonctions-là extérieures, donc soit des directeurs généraux, on a des présidents d'entreprise.
Des architectes,
des géomètres, des notaires, qui nous accompagnent. Et sur les très gros dossiers, on demande un avis à cette commission, en plus de l'avis technique qu'on peut avoir, de façon à présenter le dossier avec toutes les garanties possibles d'études. On fait réaliser également des études préalables, on peut avoir des maîtrises d'œuvres privées, hein, par des architectes. Mais donc voilà, on essaie de monter les dossiers avec le plus d'objectivité, le plus de rationalité possible, pour être certain que les investissements que l'on fait vont dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt général de l'Église.
Donc on vient de terminer l'année 2025, on est au début de l'année 2026. Je sais que tous les ans, il y a une campagne pour le denier de l'Église. Ça représente quoi le denier de l'église? Par exemple, moi j'ai un salaire, combien je devrais honnêtement donner pour le denier?
Pour le denier, dans les habitudes, on dit que ça doit représenter une journée de travail. Mais bien évidemment, après on donne avec le cœur, on donne avec la foi et on donne surtout à la hauteur de ses moyens. Donc chacun est libre de participer à la hauteur qu'il le souhaite. Le denier en 2025, ça a représenté à peu près 1 385 000 euros. 285 000 euros. On a enregistré une légère baisse par rapport à 2024.
Toute l'année. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
Non, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Après, ce qui est encourageant, c'est qu'on a eu pas mal de nouveaux donateurs.
Ah.
Donc, d'accueillir dans notre communauté de nouveaux donateurs, c'est quand même une bonne chose pour l'avenir parce qu'on sait que nos donateurs sont vieillissants. Et jusqu'à maintenant, on perdait beaucoup de donateurs chaque année. Et là, cette année, la descente est moins abrupte. Voilà. Alors, le denier, bien sûr, c'est éligible au reçu fiscal, il ne faut pas l'oublier. Donc, 66% du montant du don donne droit à un reçu fiscal. Il est envoyé systématiquement à tous nos donateurs,
donc,
soit
si,
par mail.
Donc, si je fais 3 dons dans l'année, je vais recevoir 3 reçus fiscaux?
Oui, pour les donateurs qu'on appellera ponctuels, on reçoit 3 reçus fiscaux parce que les gens sont attachés à recevoir le reçu fiscal peu après la date de leur don. Par contre, pour les personnes qui donnent par prélèvement automatique, le reçu fiscal arrive au début de l'année suivante. Mmh. Donc là, par exemple, c'est ma mission de demain. Demain, je vais envoyer tous les reçus fiscaux des gens qui donnent par prélèvement. Et les gens qui donnent par carte bancaire sur notre site internet, eux, le reçu fiscal est immédiat.
C'est important que les
auditeurs... C'est une de nos nouveautés.
Bravo. Donc, il y a 3 façons de donner, quoi.
Oui, le don en ligne, le don par chèque et par prélèvement. Et par prélèvement, on insiste vraiment sur...
Par virement aussi.
Ah oui, ou par virement aussi.
On peut aussi.
Et par prélèvement, on insiste vraiment sur cette forme de don parce que nous, nos besoins en trésorerie sont échelonnés sur toute l'année. Or, à ce jour... On a 2 périodes phares de dons qui sont les rameaux quand on lance notre campagne du denier et la fin de l'année avec la lettre d'info qui est envoyée à l'automne. Mais on n'a pas des besoins qu'à ces moments-là. Donc c'est vrai que le prélèvement nous assure une longévité sur l'année en fait.
Une régularité.
Pour le
donateur,
ça ne lui coûte rien non
coûte
plus
rien
de mettre en place ce
Alors
prélèvement.
Alors s'il fait un virement, il faut qu'il fasse la démarche d'aller à la banque, de le demander. Il y a peut-être des frais qui sont rajoutés.
Pour certains donateurs, il y a des frais, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est répondre à toutes les demandes de nos donateurs. Donc si un donateur veut donner par virement, eh bien, libre à lui et... Et nous, on est contents de recevoir cette somme. Donc,
bien sûr.
D'autant plus qu'on va faciliter les virements avec une nouvelle page de dons. Puisque notre fournisseur a informé très récemment qu'il allait arrêter de nous fournir cette prestation avec la page de dons. Hein. Il arrête le 31 mars, donc il faut qu'on en trouve un autre. On essaie de voir un petit peu quelles solutions on pourrait avoir. Il y en a une qui nous paraît intéressante et qui permettrait de moderniser véritablement cette page de dons pour la rendre plus simple, notamment pour les virements. On pourrait le faire en direct, sans envoyer un courrier comme aujourd'hui, c'est un petit peu lourd. Donc on va simplifier en fait cette page-là. Elle sera accessible plus facilement aussi avec un smartphone. On travaille aussi avec PayPal, donc ça va faire l'objet d'une possibilité supplémentaire. Le point sur lequel je voudrais insister par rapport au denier, bon, grosso modo, le denier, c'est à peu près 30% de nos ressources globales, donc très important.
C'est heureux de savoir qu'il y a 70%.
Ça fait partout, mais c'est essentiel pour nous,
clair.
Parce que c'est ce qui nous permet d'assurer les traitements des prêtres et des laïcs. Et donc, si on veut des prêtres, il faut du denier. Si on veut avoir des séminaristes, comme on a aujourd'hui 2, on paye avec cette ressource-là. Donc, c'est une ressource qui, véritablement, est fondamentale dans le diocèse. D'abord, pour rémunérer nos prêtres correctement. Et encore une fois, ils ne sont pas riches. Hein.
Non.
Et si on veut leur assurer des moyens de subsistance corrects, il faut que le denier soit maintenu, voire qu'il augmente. Donc, c'est vrai qu'on milite souvent pour cette ressource-là. Les gens ont parfois tendance à
donc, si je donne plus à la quête, c'est pas ça qui va vous aider à payer
non.
les prêtres.
C'est non, ça. Parce que la quête, ça permet d'entretenir la paroisse.
La paroisse.
Donc, c'est important. Hein.
Oui.
C'est très important pour les paroisses. Et aujourd'hui, la quête, c'est à peu près le même montant que le denier hein,
ah
sur
oui.
l'intégralité
d'accord.
des paroisses. Oui. Donc, c'est fondamental. Mais si on veut avoir davantage de prêtres et si on veut assurer aux prêtres une vie cohérente, il faut donner au denier. Et ce denier qui est centralisé, encore une fois, il ne va pas dans des dépenses de fonctionnement courant pour agrémenter nos bureaux, voilà, il va directement payer les salaires et les traitements. Et aujourd'hui, les salaires et les traitements sont toujours bien supérieurs aux deniers. Donc, on a toujours ce déficit, en fait, qui est structurel dans le diocèse. Et
ça
on a
dure
du mal.
Depuis quand on a ce déficit structurel ?
Ça fait de nombreuses années, je pense qu'une quinzaine d'années, que le denier a beaucoup baissé.
Pourtant, le nombre de prêtres aussi a baissé. Donc, on pourrait penser que le denier n'a pas besoin d'être aussi important.
Oui, c'est vrai, mais malgré tout, c'est un frein à une espèce de dynamisme du diocèse et un déploiement des prêtres. Parce que, certes, les prêtres et les ordinations sont moins importantes, mais on fait appel aussi à des prêtres étrangers.
Et oui.
On a ici beaucoup de prêtres issus du Burkina Faso, des prêtres malgaches, une contribution essentielle hein, pour que le diocèse vive pastoralement. Et ces prêtres-là, on les rémunère avec le denier. Donc, c'est une ressource extrêmement essentielle. On a aujourd'hui un nombre de donateurs qui est à peu près stable, bon an, mal an, parce que cette année, il est un peu plus faible que l'an dernier.
Mais c'est combien ? Combien de personnes ?
C'est à peu près 5500 personnes,
d'accord.
grosso modo. Ouais.
C'est à peu près le même nombre que d'auditeurs de Radio Ecclésia.
Oui,
c'est
ça. Par jour. Mais ça fait longtemps qu'on tourne autour des 5000. Et donc, le don moyen a tendance à augmenter avec l'érosion des donateurs, ce qui veut dire qu'on a des gens qui sont très solides et qui s'investissent véritablement chaque année pour continuer à donner au denier, mais ce qui nous inquiète, d'une part, vieillissement de cette population de donateurs, parce qu'on a quand même quelques informations statistiques qui nous permettent de l'identifier, ce vieillissement. Alors on a un effet renouvellement, Hélène l'a souligné, mais il nous en faudrait beaucoup plus. Il faut que les jeunes aussi pensent que cette ressource-là est essentielle pour avoir des prêtres dans le diocèse, encore une fois. Voilà.
Oui, c'est bon, pour pouvoir se marier, pour pouvoir baptiser leurs enfants,
voilà.
pour pouvoir avoir un prêtre qui soit là le jour où
on en a besoin, pour dire la messe.
Le sacrement des malades,
etc.
Pour la messe.
C'est une ressource essentielle, oui.
Eh bien, écoutez, je pense que c'est quand même drôlement important qu'on sensibilise nos auditeurs là-dessus. C'est vrai que la solution de donner tous les mois est peut-être plus facile à mettre en place que de se dire, oula, attendez, à la fin de l'année, ce qu'on a donné, tu te tournes vers ton mari, tu dis, on a donné cette année, je ne sais plus, attends, faut que je regarde. Alors que si on donne tous les mois, on prend les moyens que l'engagement soit pris dans le temps aussi pour aussi soulager l'équipe qui gère tout ça.
Oui, à ce sujet d'ailleurs, on a souvent des donateurs qui nous disent, ça remonte par les paroisses ou par mail. Ah, on a mis en place un prélèvement, mais on ne sait pas comment faire pour faire évoluer le montant ou pour l'arrêter. Alors, il y a une adresse mail, c'est denier@evêché30.fr. Et moi, je réponds à toutes les demandes et je fais les modifications au fur et à mesure. Dès lors que la demande est adressée avant le 8 de chaque mois, la demande est prise en compte pour le mois suivant.
Ah, ça, c'est bon à savoir. C'est important que les auditeurs le sachent.
De façon générale, le moindre problème sur le denier avec cette adresse-là, c'est une adresse qui est dédiée. On ne s'en sert que pour ça.
Donc, on va la redire.
denier@evêché30.fr.
Evêché, bien sûr, on ne met pas d'accent. Donc
on ne met pas d'accent.
Evêché 30.
Et le 30 collé. Et, voilà, et Hélène la regarde tous les jours. Donc, c'est une adresse sur laquelle on répondra systématiquement. Mais c'est beaucoup plus simple que d'appeler l'évêché, justement, ou de tomber sur des services qui ne sont pas,
concernés.
Sont pas au courant ou qui ne sont pas concernés.
Et je suis sûre que si on va sur le site du diocèse de Nîmes, il doit y avoir un moteur de recherche denier et on va être...
Oui, on a une page sur donons-garecatholique.fr. Vous avez toutes les formes de dons aussi, parce que là, on est en train de parler du denier, mais aussi on peut donner pour des souscriptions. Là, c'est pour soutenir les projets immobiliers. Donc, il y en a une douzaine, je crois, qui sont référencés. Et c'est pareil, pour les souscriptions, nos donateurs peuvent avoir un reçu fiscal. Parce qu'on sait aussi que certains donateurs sont plus touchés par ce qui se passe dans la paroisse,
oui,
par ceux qui vivent en local. Et pour eux, c'est peut-être plus transparent de venir soutenir le remplacement des vitraux de leur paroisse, par exemple. Donc, ça aussi, c'est le même système que le denier. Ça transite par l'association diocésaine et nous leur délivrons le reçu fiscal correspondant.
Et on peut aussi faire bénéficier de legs l'association diocésaine ou des assurances vie aussi.
Oui, alors l'association diocésaine, de par ses statuts, est habilitée à percevoir des legs et des assurances vie. C'est vraiment la ressource exceptionnelle qui nous permet de sortir la tête de l'eau chaque année, parce qu'on a quand même la chance de percevoir un certain nombre de legs. En 2025, nous avons eu 10 legs. Pour une somme d'à peu près 720 000 euros.
Oh.
Donc, heureusement qu'on a ces sommes-là, parce que nous, pour l'Economa...
Ça a sauvé l'équilibre budgétaire de l'année.
Eh bien, merci Seigneur, donc, merci pour ceux qui ont fait ce leg, mais merci aussi pour tous ceux qui vont prendre l'engagement d'être réguliers dans le denier et aussi, peut-être aussi à la quête de la paroisse. C'est intéressant de savoir qu'il y a ce lieu où on peut souscrire pour des projets précis. Comment on les trouve, ce lieu, c'est donnant? Comment vous avez dit?
Oui, le site internet du diocèse pour les dons, c'est donons, donons.catholiqueau singulier.fr. Donc là, ils vont avoir toutes les formes de dons, le denier avec la mise en place du prélèvement s'ils le souhaitent, ou le don ponctuel, le don par carte bancaire avec l'envoi immédiat du reçu fiscal, et pareil pour les souscriptions. Sur cette même page, ils peuvent avoir des informations sur les assurances vie et sur les legs. Donc, comme je disais, on est habilité à les recevoir. Et en plus, l'association diocésaine est exonérée de droits de succession. Donc, l'intégralité du montant légué va bien revenir à l'association diocésaine.
Donc, sur les 700 000 que vous avez reçus, c'est bien 700 000 qui ont été légués et reçus. Ça, c'est bon à savoir.
Oui,
c'est une
alors,
très bonne...
Il faut ajouter que oui, alors, ça va à l'association diocésaine, mais si une paroisse est mentionnée, ça servira à l'entretien de la paroisse. C'est-à-dire qu'on va conserver cette destination du legs. Hein. L'association diocésaine, en fait, est mentionnée parce que c'est la représentation civile, comme j'ai dit tout à l'heure, du diocèse. Et donc, c'est cette association diocésaine qui est en charge de recevoir le legs. Mais il peut tout à fait être destiné à une paroisse ou voire même à une église. Hein, on a...
Oui, ou à Notre-Dame du Suffrage aussi.
Ou à Notre-Dame du Suffrage,
on peut
tout
aussi,
à fait. À l'œuvre de Notre-Dame du Suffrage, oui. Donc, on peut tout à fait destiner. Et c'est la raison des souscriptions, d'ailleurs. Hein. L'objet, c'est de permettre la destination sur des travaux particuliers.
Donc, les souscriptions ou les legs, on peut les dédier. C'est ce que je comprends.
Oui, tout à fait. D'accord. Et obtenir un reçu fiscal, ce qui n'est pas le cas de la quête, ce qui n'est pas le
cas... Bien sûr. Richard Ross et Hélène Oiseau, merci beaucoup. On a reçu pas mal de bonnes nouvelles dans ce parlons du diocèse sur l'Economa. Je pense qu'on a réussi à équilibrer à peu près l'année 2025. Des nouveaux donateurs au denier, un moyen de paiement qui s'améliore, même en paroisse aussi, on n'en a pas parlé, mais à la quête, il y a de plus en plus de paniers connectés. Il y a Donons, ce site dédié pour le don avec plein de possibilités. Si des auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à écrire.
Réellement, on répondra à toutes les questions qui sont posées. On vient ici en toute transparence pour expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne, mais on est aussi tout à fait en capacité de répondre aux questions. S'il y a des questions concernant les legs, il ne faut pas hésiter à prendre contact. On peut aussi venir en rendez-vous. Hein, on se déplace.
Oui, on vient rencontrer nos futurs testateurs.
On est présent dans les paroisses, donc on peut tout à fait se déplacer, rencontrer nos testateurs, rencontrer nos donateurs, leur expliquer aussi ce qu'on fait de tout ça, parce que on a des dépenses courantes comme n'importe quelle structure.
Hein, bien sûr.
Et puis des dépenses d'investissement.
Merci infiniment d'être venu nous en parler, Richard Ross et Hélène Oiseau.
Merci à vous.
À bientôt.